J'aime beaucoup le mot de Jean Vanier, répercutant la réflexion d'un petit bonhomme de 6 ans qui va mourir handicapé. Il est devenu aveugle, puis paralysé. Et à l'approche de la mort, il entend sa maman pleurer près de son lit d'infirme. Et il dit à sa maman, « Maman, pourquoi tu pleures ? J'ai encore un cœur pour aimer ma maman. » Et Jean Vanier de faire remarquer que ce petit bonhomme avait découvert à 6 ans ce que certains adultes n'ont pas encore compris à un âge avancé. Ce qui compte, c'est le cœur. J'ai encore un cœur pour aimer ma maman. Nous sommes bêtes lorsque nous jalousons les autres parce qu'ils possèdent des qualités extérieures qui ne leur donnent pas forcément plus de valeur au niveau du cœur. La toile sur laquelle l'artiste réalise son chef-d'œuvre n'a-t-elle pas plus d'importance que les pinceaux dont il se sert dans son travail ? Alors pourquoi jalouser les pinceaux dont Dieu se sert pour réaliser son œuvre, chacun de nous ? Bon, et c'est dans cette mesure-là que nous céderons moins à un certain nombre de critiques bien connues dans tous les milieux. Cette personne-là rend service à son prochain, cette personne-là fait de la catéchèse, oui, mais elle fait un peu ça pour se faire remarquer. Nous avons beaucoup de mal à accepter que les autres soient meilleurs que nous. Si nous réalisions que ce qui compte, c'est d'aimer, et que la comparaison est toujours chose mauvaise. Thérèse découvre surtout, alors, à la fin de sa vie, le commandement tel que Jésus l'a énoncé le soir du jeudi saint, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Elle a la simplicité de nous dire qu'elle n'avait jamais approfondi cette parole de Jésus. Et c'est vrai que je suis allé vérifier dans l'édition que Thérèse avait entre les mains, les quatre évangiles qu'elle avait entre les mains, qu'elle avait extraite de son manuel du chrétien, les notes qu'elle pouvait lire au bas de la page, ne la mettait absolument pas sur la voie de cette découverte, car l'auteur de ces notes disait « On se demande vraiment pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. » Les prédicateurs de l'époque assimilaient le commandement du jeudi saint à tout ce que Jésus avait dit au cours de son existence, de son ministère, sur l'importance de la charité fraternelle. « Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. » Grâce à Marie de Saint-Joseph. Avant, je le comprenais, il est vrai, mais d'une manière imparfaite. Je n'avais pas approfondi cette parole de Jésus. Le second commandement est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu. Ne prenons pas cela à la lettre. Dès le début de sa vie, on lui a fait prendre l'habitude de faire des actes de charité fraternelle. Je m'appliquais surtout à aimer Dieu, et c'est en l'aimant que j'ai compris qu'il ne fallait pas que mon amour se traduise seulement par des paroles, car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Cette volonté, Jésus l'a fait connaître plusieurs fois, je devrais dire presque à chaque page de son évangile. Mais à la dernière scène, lorsqu'il sait que le cœur de ses disciples brûle d'un plus ardent amour pour lui, qui vient de se donner à eux dans l'ineffable mystère de son Eucharistie, ce doux sauveur veut leur donner un commandement nouveau. Il leur dit avec une inexprimable tendresse, « Je vous fais un commandement nouveau, c'est de vous entraîner, et que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez les uns les autres. » Comment Jésus, alors elle réfléchit, comment Jésus a-t-il aimé ses disciples ? Eh bien, il les a aimés malgré leurs défauts. Ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père. Et pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Alors Thérèse réalise à quel point elle doit aimer les autres avec tous leurs défauts, avec tous leurs retards, avec toutes leurs incohérences, qu'elle doit leur pardonner tout cela, comme Jésus a aimé ses apôtres malgré leurs défauts, leurs incohérences et leurs retards, comme Jésus a aimé Saint-Pierre. La charité espère tout. Je pense que le plus difficile dans la charité, c'est d'espérer. D'espérer qu'une ordure peut devenir de l'or pur. Je pense à une personne qui est en train de souffrir terriblement de son divorce. Le mari fait tout pour la mettre sur la paille, pour l'humilier, l'écraser, se moquant d'elle comme ce n'est pas permis. C'est vraiment une ordure, mais elle a conservé dans un, elle conserve dans un coin de son cœur que son mari sera un jour bouleversé par la sainte face, qu'il a elle-même bouleversé un jour qu'elle visitait la cathédrale Saint-Pierre à Lisieux. Je ne sais pas pourquoi, cette sainte face l'a véritablement percutée, l'a bouleversée. Et elle me disait encore récemment qu'elle sentait qu'elle ne devait surtout pas éliminer de son cœur l'idée que son mari, que cette crapule, puisse être un jour bouleversée lui-même par cette sainte face qu'il a bouleversée il y a quelques années. Ne jamais désespérer de personne, comme Jésus ne désespère jamais de nous. J'aime beaucoup cette association qui est née à Timaduc, l'association Notre-Dame de l'Alliance, qui réunit quelques centaines d'hommes et de femmes, divorcés ou séparés, et qui essayent de vivre leur terrible épreuve dans l'espérance d'une réconciliation future. Comme ils sont réalistes, ils savent très bien qu'il y a peu de chances qu'ils se remettent avec leur mari ou leur femme ici-bas, mais ils espèrent pouvoir s'embrasser de nouveau dans l'au-delà. La charité espère tout. Bon, il faut pardonner 70 fois cette fois. Et il y a des personnes qui comprennent ce commandement du pardon d'une façon magnifique. Je pense à cette femme accueillant son mari, lui revenant après quelques mois d'errance, d'infidélité. Et cette femme disait à son mari, « Oh chéri, tu sais combien tu m'as fait souffrir par cette infidélité qui a duré. Mais n'en parlons plus trop. Et puis, bien sûr que je te pardonne. Et puis, si j'avais été à ta place, peut-être que j'aurais fait pire. » Comme c'est beau, une femme qui prêche elle-même les circonstances atténuantes pour ne pas accabler son mari de son pardon. Elle ne veut surtout pas jouer à la femme parfaite, à la femme fidèle, relevant son mari infidèle. Si j'avais été à ta place, peut-être que j'aurais fait pire. Vous pouvez raconter cela à n'importe quel jeune. Ils sentiront qu'il y a quelque chose de beau, même s'ils disent « c'est idiot », avec un langage d'ailleurs souvent beaucoup plus cru. Il semble que quand même c'est quand même pas mal quand on peut arriver à cette qualité du pardon. Aimer comme Jésus, pardonner comme Jésus, espérer comme Jésus. Personne n'est foutu. On n'a jamais le droit de dire de quelqu'un qu'il est vaurien. Et c'est en ce sens-là que la charité ne doit pas juger, ne doit pas condamner. J'ai tout à fait le droit de penser que cette personne est une ordure. Bon, parce que je la connais bien, je vois bien toute sa méchanceté. Le bon Dieu ne peut pas me reprocher de penser de cette personne qu'elle est une ordure. Mais ce qu'il me demande, c'est de ne pas la juger définitivement, de ne pas la condamner. Elle peut changer, elle peut devenir un chef-d'œuvre. Et je souhaite qu'elle devienne un chef-d'œuvre. Je souhaite qu'elle soit bouleversée par la sainte face. C'est cela que le Seigneur demande. Donc, aimer comme Jésus. Mais Thérèse, en y réfléchissant, se dit, je n'y arriverai jamais à aimer comme Jésus. Il me demande vraiment quelque chose d'impossible. Mais aimer comme Jésus, aimer autant qu'il nous aime, ce n'est pas possible, à moins que la volonté de Jésus ne soit de venir aimer en moi tous ceux qu'il me commande d'aimer. Et c'est sa grande découverte. Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez que jamais je ne pourrai aimer mes sœurs comme vous les aimez si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. C'est parce que vous vouliez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Je n'insiste pas trop parce que la prédication moderne a, heureusement, mis beaucoup en valeur cet aspect de l'Évangile. On peut dire que tous les enfants qui se préparent à leur première communion entendent leur animateur de catéchèse expliquer cela. Que si Jésus vient en nous, c'est pour nous aider à aimer les autres. Que Jésus nous fait une espèce de grève de cœur pour que nous puissions aimer les autres avec son propre cœur. Que Thérèse me pardonne si je dis cela, mais il semble qu'elle n'ait pas vu le lien entre le commandement nouveau et l'Eucharistie. Elle parle bien de l'Eucharistie, mais il ne semble pas qu'elle ait vu ce que nous voyons, on peut dire, assez bien maintenant, que si Jésus a attendu le jeudi saint pour donner ce commandement nouveau, c'était que ce soir-là, il inventait l'Eucharistie. pour nous montrer que pour aimer les autres comme il les aime, il faut absolument qu'il vienne mettre son propre cœur en nous par l'Eucharistie. Donc, aimer avec Jésus en moi. Ce n'est pas moi qui aime, c'est Jésus qui aime en moi.